La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant 30 minutes pour discuter de l'actualité locale. Ce soir, Clémence s'est entretenue avec Safa, LQ et Jeep, étudiants et étudiantes à l'Université catholique de l'Ouest, qui nous présentent un festival de hip-hop qu'ils ont organisé, le Nova Square Festival. Vous en saurez plus dans quelques instants. À la fin de cette émission, c'est le retour de Léo et Louis pour leur chronique de géopolitique internationale. Très bonne émission à toutes et à tous.
Trois étudiants et un festival. Nova Square Fest, c'est le projet de festival hip-hop mené par des étudiants à M1 parcours art du spectacle à l'UQO. Au programme, des open mic, friperies ou encore des conférences. Doris Coffey de l'asso Art Project Partner et leur marraine et aussi de multiples acteurs de la vie culturelle se sont déjà associés au festival. Bref, du beau monde qui nous donne bien envie d'en voir le résultat. On accueille donc les trois joyeux lurons qui sont à l'origine de ce projet. Il y a donc Safa, Louis Quentin et Julie Parvin. Bienvenue à vous trois.
Merci beaucoup.
Salut.
Merci à Radio Campus.
C'est ultra pratique, on va pouvoir faire un petit tour de table pour vous présenter chacun et aussi, pourquoi pas, donner votre histoire avec le hip-hop.
Tout le monde me regarde, du coup j'imagine que c'est moi qui...
Et oui, c'est toi.
Hein, du coup, moi je m'appelle Louis Quentin. Moi j'ai un rapport au rap, ça a vraiment bercé mon enfance en fait, parce que tous mes potes, etc., ils vivent rap en fait. C'est tous les matins, on écoute du son et tout, et quand on prenait le bus H24 ensemble, on écoutait tout le temps du son ensemble. Après, j'avoue que moi j'ai un peu plus de plaisir à me balader dans une ville qui est teintée de graffiti, etc. C'est quelque chose qui m'a toujours plu depuis que je suis gamin. Après là, j'ai suivi un peu la structuration du mouvement, etc., un peu les villes qui s'appropriaient ce genre d'œuvre, et vraiment je prends un plaisir de ouf à me balader dans la rue, à voir des œuvres comme ça. Pour moi, avoir des murs de maison qui font office de toile, je trouve ça génial, parce que on est vraiment c'est comme si on marchait dans une galerie d'exposition en fait. Et vraiment, moi quand Jeep m'a parlé du projet au début, j'étais vraiment emballé par rapport à ça, de pouvoir vraiment valoriser ça, parce que on souhaitait avoir un dialogue un peu intergénérationnel sur la thématique du hip-hop, et je trouvais ça cool de pouvoir vulgariser ça pour les personnes qui prenaient ça vraiment juste pour des graffitis et de la pollution visuelle entre guillemets. Et je trouvais ça vachement cool de pouvoir être là et montrer aux gens que c'est pas juste des personnes qui viennent et qui dénaturent un bâtiment, alors qu'au final, ça le décore, quoi, je veux dire. On n'est pas dans une société où il faut avoir des murs tout lisses, etc., quoi. Faut vivre, quoi. Faut vivre, faut avoir des couleurs, Il faut qu'on ait ça maintenant, je veux dire, en plus là, en ce moment où on doit sortir avec un masque sur la trogne et qu'on peut pas vraiment aller dans des lieux culturels, là, la culture elle est partout, quoi. Mmh. Avec des mouvements comme ça, je veux dire, on sort, on en prend plein les mirettes, après tout.
Tu disais que c'était Jeep, du coup, qui t'avait parlé
Pour un
mouvement, on va peut-être préciser qui c'est Jeep.
Oui.
C'est Julie Parvin,
oui.
C'est ton petit surnom.
C'est ça.
Si tu veux te présenter, vas-y.
Julie Parvin, a.k.a. Jeep. Moi, mon rapport à la culture hip-hop, ça a commencé donc du coup par le rap. Et ensuite, ça s'est beaucoup plus élargi quand je suis rentrée en licence d'art plastique. Et là où je me suis intéressée à la culture hip-hop en général. Donc avec tous les domaines artistiques qui la composent, mais aussi avec sa philosophie. Et également sa philosophie. Et également le fait que ce soit un art de vivre, parce que c'est une culture, c'est pas seulement un mouvement artistique, donc ça prend en compte beaucoup de choses, comme une manière de parler, de marcher, de s'habiller, etc. Et c'est un projet qu'on a fait dans le cadre de notre master, et j'ai proposé l'idée, et Safa et Louis Quentin, et on dit direct, nous on est d'accord, on est chaud, on veut le faire, et c'est pour ça qu'on en est là, quoi.
Et donc Safa, je me tourne vers toi.
Oui. Moi c'est Safa. J'ai un rapport à la culture hip-hop depuis que je suis jeune, très très jeune. En fait, mes parents, même quand on faisait des longs trajets en voiture, on écoutait beaucoup de rap. Je suis passé vraiment, que ce soit français ou US. J'ai ce rapport-là depuis petite. Après, j'ai aussi un rapport avec la danse et le street dance, breakdance. J'en ai fait pendant un an. Et puis je trouve ça super beau en fait. C'est une manière de s'exprimer mais sans parler en fait, et je trouve ça super. Après, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans le projet, c'était pas que le rapport à la culture hip-hop, c'était aussi que c'est un projet dans le cadre d'un cours où on est parti vraiment de rien, avec zéro budget, rien du tout, quoi. Et c'est ça aussi, là je me dis, c'est vraiment ça que je veux faire en fait plus tard, c'est de monter des événements, des rassembler en fait.
Et c'est la thématique d'un cours en particulier ?
Conduite de projet.
Ouais, voilà.
Voilà.
Tout
du coup, on conduit un projet, quoi. Et de rien du tout. Et c'est super. Ça nous a beaucoup rapprochés aussi. Et c'est super cool de taffer tous ensemble, quoi. Voilà.
Vous voulez donc promouvoir l'aspect Vous voulez donc promouvoir l'aspect multidisciplinaire du hip-hop avec ce festival. T'as parlé de valeurs, t'as parlé de philosophie du hip-hop, Jeep. Tu peux en dire un peu plus ?
Dans ce projet, du coup, on s'est inspiré de la Zulu Nation, donc qui est l'un des comment on appelle ça ?
Des piliers.
Comment ?
Piliers.
Voilà, des piliers de la culture hip-hop. Donc en comptant à côté Grandmaster Flash et Coolerc. Il y a aussi la Zulu Nation, et la Zulu Nation, elle partage des valeurs, une philosophie. Et en fait, c'est arrivé pile au moment où on est dans le Bronx, où, histoire de gang, meurtre, drogue, tout ça, où il n'y a pas de travail pour les gens qui, justement, vivent dans ces quartiers-là. Et en fait, la Zulu Nation vient leur dire, au lieu d'aller dans les gangs, venez dans la Zulu Nation, produisez et soyez heureux de ce que vous produisez, tout en ayant un aspect... Enfin, tout en ayant une mentalité de positivité et pas de négativité, quoi.
Ouais, il y a une charte de la paix avec plusieurs principes.
Ouais, c'est ça. Ce sont les préceptes de la Zulu Nation que je ne les ai pas en tête, je les ai pas apprises, mais.
Il y en a quand même beaucoup. Une vingtaine.
Il y en a une vingtaine, et chacun, enfin, tous les préceptes rappellent vraiment la mentalité qu'on doit avoir. Pour faire partie de la Zulu Nation, parce que voilà, c'est la collectivité, c'est avoir un bon état d'esprit et pas être dans la vengeance ou dans la violence, mais au contraire de fabriquer avec, c'est prendre sa rage et produire quelque chose avec, quoi, et produire quelque chose de positif et pas de la violence ou de la négativité ou ce genre de choses, quoi.
On peut partir des idées reçues qu'on a vis-à-vis du hip-hop, ou même de façon générale des paroles ou des images, enfin paroles, images véhiculées, que ce soit aussi bien dans les clips que dans les paroles. Il y a quoi par exemple qui est complètement démonté par ces préceptes de la Zulu Nation?
Je pense déjà le savoir vivre ensemble et partager, plutôt que, au lieu de faire de se détruire mutuellement, de vraiment se rassembler et faire un truc bien ensemble plutôt que se diviser et faire des trucs de gang ou des trucs comme ça, en fait. C'est vraiment... ça, je pense, c'est une des bases aussi, même dans la vie de tous les jours, en fait, c'est de partager quelque chose de commun à tous, comme par exemple des valeurs ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on va créer quelque chose qui va aider sûrement des jeunes de quartier qui savent pas quoi faire de leur vie, ou je sais pas. C'est très cliché, mais ça va quand même les aider, parce qu'il y en a beaucoup... qui viennent de rien, ils ont rien eu, ils ont eu que des galères dans leur vie, et qui maintenant, grâce à ça, c'est aussi un soutien en fait. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est le partage, le soutien, être une famille en fait, dans un certain sens.
Oui, puis le faire avec bonne humeur aussi, parce que dans une des phrases, c'était soit occupé, get busy, fais ce que tu veux, et surtout,
have fun.
Ouais, have fun, quoi. Fais-le avec du fun, quoi.
Il y a des choses aussi au sujet de la place des femmes ?
À la base, le projet, on voulait qu'il y ait une parité. Sauf que ça a été très compliqué, puisque la majorité des artistes qu'on a sont des rappeurs. Et on n'a pas vraiment trouvé des rappeuses à part une.
Et Laïs, oui. Elle était invitée, on a fait La Mèche.
Oui, au 122, oui.
Ouais, au 122, ouais. L'open mic.
Bah, c'est là que je l'ai découvert.
Yes.
Ouais. Ouais, et puis les filles du 122 aussi m'en avaient parlé. Et le problème, c'est que on a pas ça, mais dans notre communication, on compte quand même se rattraper sur ça, c'est-à-dire que, par exemple, sa femme avait envoyé un article, donc d'un collectif justement qui de culture hip-hop, qui promouvait, non, c'est pas français,
qui promeut
que des femmes. Et du coup, ça, on l'a partagé sur Facebook. Là, par exemple, on a pris aussi connaissance d'un site internet qui est Madame Rap, Et Madame Rap, c'est le premier média français qui parle des femmes et de la communauté LGBT dans la culture hip-hop. Et en fait, elle souhaite déconstruire justement les clichés qu'on a de bah oui, bah, c'est sexiste, c'est homophobe. En fait, elle dit que c'est un problème de société, en fait. Et que c'est pas plus particulièrement lié au rap ou à la culture hip-hop. C'est juste un fait qui se retrouve dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est pas la peine de dire que c'est le rap ou quoi, donc non, c'est pas ça en fait. Donc on veut se rattraper par notre communication du fait qu'on n'a pas vraiment dans notre programmation cette parité là.
Et donc le programme de cette édition qui du coup va être tout numérique, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors bah, du coup on est parti sur trois axes qu'on va développer juste après. Moi je me suis occupé de trouver quelqu'un qui pouvait nous parler de street art en fait, dans le sens où moi vraiment le prisme du hip-hop à mes yeux, moi il s'éclaircit par le fait de se réapproprier en fait des lieux. Et du coup, j'ai commencé à chercher quelqu'un qui pouvait nous parler de ça.
Et du coup, tu dois être bien content avec le projet de votre marraine Doris Coffee et la résidence.
Mais
tout est lié.
Oui.
Ça se goupille bien.
C'est incroyable. En plus, JP en parlait juste avant, mais du coup, c'est une femme. Donc voilà, en fait, même si on n'a peut-être pas une programmation qui va être équitable entre guillemets pour des deux sexes, enfin à mes yeux on a lancé quelque chose et on espère que cette dynamique va aussi permettre à des femmes de pouvoir s'approprier la culture hip-hop et du coup pouvoir se développer et se lancer en fait en termes de carrière artistique. À nos yeux c'était aussi important de lancer une dynamique parce que dans nos grands principes de projet, on retrouvait pas en fait ce genre d'événement sur Angers. Du coup, on en a créé un, tout simplement. Mais du coup, pour revenir à la programmation, moi, je m'étais orienté du coup à trouver quelqu'un qui pouvait nous parler de ça. Et au tout départ, on devait faire une conférence dans Bazin avec du coup Doris qui viendrait nous parler de ses projets, etc. Tout en en ayant une idée d'interactivité en fait. Et du coup, on avait prévu au tout départ d'avoir quand même un format numérique parce qu'on savait pas où en était l'épidémie, etc. Et du coup, on voulait quand même pouvoir produire quelque chose, même si à cause du contexte, on aurait été obligé un peu de brader notre concept après tout. Mais on voulait quand même pouvoir produire quelque chose, donc moi je me suis dit pourquoi pas faire une intervention. Ce serait intéressant et puis ça permettrait un peu de structurer la pensée street art dans le sens où dans la tête des gens on a quand même beaucoup l'artiste qui part avec sa bombe, qui va faire une presta et puis ça s'arrête là. Sauf qu'il y a tout un schéma de pensée et tout avant ça, enfin je veux dire la personne elle réfléchit à son œuvre, etc. Et c'est vraiment ce rapport là que je voulais mettre en valeur en fait à travers la prestation de Doris. Et c'est encore mieux qu'elle mène en ce moment un projet, parce que du coup, elle va pouvoir aussi nous faire un petit parallèle sur ce qui se passe en ce moment, comment elle voit la crise, etc. Parce que du coup, elle a quand même continué, elle, à produire des choses, ce qui est hyper important, et c'est quelque chose qui nous a vraiment plu quand on a pu la rencontrer, c'est qu'elle est vraiment animée, en fait, par la culture, et donner la parole aussi à des acteurs culturels en ce moment qui continuent de développer des projets, à nos yeux, c'est quand même super important, parce que ça montre qu'il y a quand même une lueur d'espoir, en fait, à travers ça, et que la culture, si tu nous fermes la porte, on rentre par la fenêtre, en fait. Et si tu nous fermes par la fenêtre, on rentre par la cheminée, quoi. C'est vraiment, on va faire en sorte d'être toujours là.
Il faut noter cette punchline, tout de suite, directement.
Non, mais je veux dire, il faut... On vit de ça, en fait, c'est aussi quelque chose qui nous fait vivre, donc c'est un cycle. Et si on brise le cycle, qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
C'est essentiel.
Exactement.
Il y a aussi une conférence sur le break. C'est toi qui t'en occupe ?
Ouais, c'est moi qui m'en occupe. Du coup, j'ai contacté le 122. Et du coup, on a eu une réunion déjà, une première réunion avec JP. On a pas mal exposé le projet. Les filles, du coup, c'était Marie et Margot. Elles ont adoré le projet. Elles étaient vraiment emballées. Et du coup, elles l'ont présenté.
On leur fait coucou.
On leur fait coucou. Et on leur dit merci, surtout. Et du coup, elles étaient super emballées. Et on a retourné ça. Du coup, à la base, ça devait être vraiment un endroit où il y a de la danse, où il y a une friperie. Vraiment... Parce que comme l'a dit JP, c'est aussi la culture hip-hop, c'est aussi une façon de s'habiller en fait. Et du coup, on va partir plutôt sur une table ronde entre guillemets, parce que du coup, on va vraiment avoir deux artistes. Du coup, c'est Louva et Dido qui ont fait coucou aussi. Et du coup, on va parler de plusieurs thématiques. Enfin, je vais pas tout dire parce qu'on va pas spoiler. Mais par exemple, une question du genre, qu'est-ce que vous pensez que le breakdance entre dans les JO ? Parce que c'est un sujet assez intéressant.
Ouais.
Voilà, tout à fait. et aussi des genres des choses du genre bah, du coup c'est quoi ton move préféré en danse et nous le montrerait enfin vraiment mélanger un peu aussi que ce soit pas que théorique mais qu'il y ait aussi un peu de pratique en fait.
Ouais, qu'il n'y ait pas que des gens assis autour d'une table, il y aurait peut-être des démos quoi.
Oui, voilà, c'est ça, totalement. Okay. Et vraiment du partage, même si on sera pas beaucoup, même s'il y aura que l'équipe les bénévoles et puis l'équipe du 122, et bah qu'on passe quand même un bon moment et que les gens aussi à travers leur ordinateur, leur ou leur smartphone, bah puissent kiffer quand même un max quoi.
Et toi, est-ce que tu organises une conférence?
Non, moi c'est pas des conférences, ça va être des interviews. Okay. Donc de rappeurs et de rappeuses. Donc nous en programme là, on a Elaïs, Odor, La Magie, Joe Berry, Armitic, Bentham et 21G. Et donc voilà, ça va être des interviews. À la base, c'était censé être un concert, mais je...
Compliqué.
Ouais. Voilà, puis le concert en live, moi, ça me disait pas trop, l'équipe non plus. Donc on s'est dit que faire une interview, ça pouvait être un exercice intéressant pour les artistes, justement pour que pour qu'on puisse bien se concentrer sur leur travail, sur leur projet, et qu'ils puissent en parler en fait, parce que souvent là où ils peuvent en parler, enfin c'est en radio. Donc il y aura deux interviews, il y aura une petite interview marrante qui s'appelle Wesh, c'est quoi le son que t'écoutes quand tu es fatigué, quand tu es joyeux, voilà, bref.
Les fameux petits formats qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, c'est mais ça, voilà. À ta sauce, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc la deuxième, qui est une grosse interview, qui va voilà, dire, bah voilà, c'est quoi pourquoi le nom, ce nom de groupe ou ce nom de pseudo-là, s'il y a un personnage derrière le rappeur ou la rappeuse, si, je sais pas, il y a... si y a des thématiques qui sont plus abordées que d'autres, enfin voilà, ça va vraiment être ça quoi.
Comment est-ce que tout s'est mis en route avec vos partenaires? Je pense au 122 qui du coup va vous accueillir pour les différentes tables rondes. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Comment est-ce que ça s'est fait?
Alors c'est parti d'un contact. En gros, il y a une fille.
Angers est une petite ville.
Oui, très petite. Et du coup, bah j'ai demandé à une amie si elle connaissait du monde là-bas parce qu'elle a déjà fait son stage là-bas. Du coup, elle a demandé à quelqu'un qui a demandé à Marie. Voilà, c'est vraiment du réseautage, quoi. Et du coup, bah, j'ai envoyé un mail. C'est parti juste d'un mail. Et du coup, elles nous ont proposé un entretien. Et on a vraiment discuté. On a exposé le projet. On a vraiment dit ce qu'on avait en tête. Et vraiment, on a aussi beaucoup parlé avec le cœur. Parce que c'est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur. Surtout Julie Parvin, je pense. Et on a vraiment envie... parce qu'il ne faut pas oublier que c'est, à la base, c'est un projet qui est dans le cadre d'un cours. On a déjà été noté dessus, hein. Mais on veut vraiment aboutir à la finalité. En fait
vous avez fait tout le plan, on va dire, sur papier.
Mmh. Oui.
C'est ça, voilà. D'accord, vous êtes noté sur le papier, mais pas sur la réalisation.
Oui, voilà, la réalisation
finale.
Ouais. Et du coup, ça s'est vraiment fait comme ça, par contact. Et du coup, le 122... ils nous ont accueillis bras ouverts. On s'est revus il n'y a pas longtemps avec... du coup, il y a Dido qui est venu. Il a vu le lieu, il connaissait un peu. Et on a imaginé aussi une certaine logistique pour la table ronde. Enfin, ils ont été vraiment super. Enfin, moi, je tiens encore à les remercier parce que vraiment, merci, quoi.
Oui, je suis d'accord avec Safa. Ouais. Ils sont très gentils et tout. Ils nous ont accueillis très gentiment. Et c'est vraiment sympa d'avoir accueilli un projet étudiant tel que le nôtre, quoi.
Et puis avec zéro budget, hein.
Ouais, surtout ça, ouais.
En fait, ce qui est ouf, c'est toute la bienveillance en fait qu'on a eue, et c'est trop bien, quoi. Enfin, quand on est étudiant et qu'on est là avec notre casquette d'étudiant, qu'en plus on n'a pas de moyens, parce que je le rappelle quand même, mais on le monte avec vraiment zéro thune, quoi. Vraiment, on le fait un peu à la one again là-dessus, mais sinon sur tout le reste, on essaie d'être ultra pro à côté. Et du coup, pour nous, c'est vraiment génial d'avoir des gens qui sont derrière nous sans être spécialement attirés par l'aspect pécunier de la chose, quoi. Et juste de se sentir comme ça soutenu, c'est génial, quoi. Surtout en plus avec les temps qu'on connaît, bon, voilà. Mais trop bien, quoi, vraiment trop bien. Et c'est... Enfin, là, on véhicule vraiment les valeurs de notre événement aussi, c'est le côté fédérateur, en fait. Et on espère pouvoir, malgré le format numérique, faire que les gens se retrouvent, en fait, à travers ça, quoi.
Vous êtes étudiant en première année de master, ensuite il y a le master 2. Après c'est fini, comment est-ce que vous allez pérenniser l'événement?
On a l'idée de... comment ça s'appelle? Mettre des statuts juridiques,
faire une association.
créer une association.
Les trucs administratifs là.
Ouais, ouais. Les trucs relous. Là. Non, faire une association pour que on puisse déjà essayer d'amasser un peu de fonds, faire des demandes de subventions, même si voilà, on a fait un projet à 0 euro. On voudrait quand même essayer de s'améliorer et que, si un jour il nous faudra du matériel ou on sera plus à l'UCO ou quoi, on aura plus l'accès au CAVM par exemple. Et donc on réfléchit à ces trucs-là. Il y a aussi peut-être l'éventualité de peut-être passer le flambeau à l'équipe.
Les futurs M.
Enfin, ouais, voilà, au futur M1 et tout, mais d'un autre côté, on est quand même très attaché à ce projet. Donc pourquoi pas peut-être leur laisser. Leur dire ok, on est une asso, on vous laisse vous occuper d'un événement, vous faites ce que vous voulez, et nous de notre côté on fait quand même continuer, enfin on essaye
d'élargir un peu,
ouais c'est ça, ouais. Et aussi de se dire que même s'il y a un événement ponctuel qui, où c'est des gens qui changent chaque année, il y a quand même des gens qui sont là pour pérenniser le truc et se dire ok, pour pas que ce soit trop fragmenté année par année, qu'il y ait vraiment une cohérence au sein même des années, ouais. Du projet, quoi.
Cohésion, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est dans les bacs d'essayer de continuer si possible, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, ça va être dur de laisser partir son bébé, ouais.
C'est ça, ouais.
Donc du coup là ça va se passer du 1er au 3 avril, mm-hmm. En soi c'est là où vous allez tourner pas mal de tables rondes, c'est ça
ouais.
Et on peut vous suivre en coulisses. Et ensuite, vous allez lâcher, on va dire, les vidéos un petit peu au compte-gouttes. Mais vous m'avez dit qu'il y avait déjà une vidéo qui sortait le 1er avril. Enfin, ou un contenu.
Oui. Contenu.
Est-ce que vous voulez bien teaser un petit peu ce que c'est?
Bon, allez, Louis-Quentin, tu veux teaser ou...
Allez.
Allez, vas-y.
Ouais, après, pour vous en parler en quelques mots, on va dire qu'on a été voir Doris et puis qu'on a fait des discussions très constructives. Après, sans rentrer dans les détails, on a eu des discussions très très poussées, puisque même elle nous a apporté d'autres aspects de l'événement qu'on n'avait peut-être pas spécialement vu là pour cet été. Je vais pas en dire plus, mais on va dire que voilà, on est avec quelqu'un qui bouge beaucoup, donc on essaie, oui, de rentrer dans cette dynamique. Elle nous rappelle aussi que il y a des choses qui peuvent être faites en ce moment, même malgré le contexte. Donc on est attentif, on taffe de notre côté, on voit ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, on essaye de tout mettre en œuvre pour que l'art revienne aux gens, on va dire.
Après, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller voir le 1er avril. Voilà. Ce qui se passe, quoi.
Nous suivre sur Instagram et sur Facebook.
Juste par exemple.
Voilà, juste par exemple.
Juste comme ça, quoi.
Merci beaucoup à vous trois d'être venus nous présenter votre festival.
Merci à vous, surtout.
Merci, c'est cool.
On vous rappelle, le Nova Square Fest, c'est en coulisses déjà, c'est du 1er au 3 avril avec un petit événement que nous a teasé Louis-Quentin dès le 1er avril. Vous pouvez suivre les tournages des tables rondes sur Instagram, @nova_square_fest. On dit aussi _ pour certains. Moi, je dis _, comme ça, tout le monde comprend. Il y a aussi d'autres infos sur leur page Facebook, @nova.square.fest. Restez connectés pour découvrir les vidéos.
Merci.
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 Merci. Salut à tous, c'est Nova Square.
Et on accueille pour la fin de cette émission Léo et Louis en studio pour le retour de la chronique internationale de la semaine.
Aujourd'hui, on parle du Rwanda. Le 26 mars dernier, Macron a reçu un rapport de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. On en profite pour faire un point sur ses conclusions.
Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda ?
Alors au Rwanda, du 7 avril 1994 jusqu'au 17 juillet 1994, il y eut un génocide des Tutsis. Un génocide, c'est un crime contre l'humanité qui correspond à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, pour rendre impossible la survie du groupe réduit. Et en fait, ce génocide des Tutsis s'inscrit dans un processus plus long, parce que en 1994, le gouvernement rwandais refuse de réintégrer les exilés Tutsis, qui étaient l'objet de la guerre civile rwandaise. Et cette guerre oppose le front patriotique rwandais des Tutsis aux forces armées rwandaises des Hutus, qui, elles, est tout soutenue par l'État français. En tout, 800 000 Rwandais ont perdu la vie, en majorité des Tutsis, mais aussi des Hutus qui s'étaient montrés solidaires.
Et qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé à un génocide ?
En fait, si on en est arrivé à ce point, d'abord, c'est à cause des colonisateurs. Parce que les différences n'étaient pas très importantes avant leur arrivée. Et après leur arrivée, ils ont divisé la population en deux catégories, en deux ethnies. Et là a commencé les rivalités entre Tutsi et Hutu. Donc ce sont les colonisateurs allemands et belges qui ont amené ces tensions ethniques parce que les Tutsi avaient accès à l'instruction et aux postes à responsabilité dans l'administration. Et les Hutus cultivaient la terre et étaient dans des classes socio-économiques inférieures. Ça explique en partie l'histoire de ce génocide.
Mais tu nous as parlé de la Belgique, de l'Allemagne, pourquoi tu nous parles de la France aujourd'hui ?
Si on parle de la France aujourd'hui, c'est parce que la France a montré un soutien sans faille, politique, militaire, financier et diplomatique, au gouvernement Hutu, contre le fonds patriotique rwandais créé par les exilés Tutsi pendant la guerre civile. Et on soupçonne, en fait, on soupçonne la France d'avoir poursuivi ce soutien durant le génocide.
Et avant ce rapport publié très récemment, la France n'avait pas reconnu ses responsabilités.
En fait, Sarkozy, en 2007, avait juste dit, avait parlé d'erreurs politiques qui avaient pu être commises et qui avaient empêché de prévenir ou d'arrêter le génocide.
Et pourquoi on reparle de ce génocide ? Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de travaux d'historiens sur le sujet, Florian Piton, Raphaël Doridan, très récemment.
En fait, quelques mois après le rapport de Benjamin Stora sur la guerre d'Algérie, Macron continue sur sa volonté d'apaiser à la fois les tensions géopolitiques et mémorielles françaises. Et ça, ça explique ce pourquoi il a commandé un rapport de la commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis qui a été présidé par l'historien Vincent Duclerc.
Et qu'est-ce qui ressort de ce rapport de plus de 800 pages ?
Alors, de ce rapport ressort en fait la responsabilité accablante de la France dans ce génocide, mais pas de sa complicité. De son côté, Macron parle d'une avancée considérable dans la compréhension du rôle de la France au Rwanda, et ce rapport conclut sur le fait que les décideurs français n'avaient pas d'intention génocidaire, mais voulaient garder le Rwanda dans leur zone d'influence africaine.
J'imagine que les questions mémorielles concernant le Rwanda sont clivantes, et objet de dispute, comme c'est le cas avec l'Algérie. La commission s'est accordée sur l'entièreté du rapport. Quel est le point de vue des autres historiennes et historiens sur le sujet ?
Alors c'est exact, hein, c'est l'objet de disputes, et c'est le cas en fait, parce que certains historiens d'abord précisent que le rapport ne fait pas de grandes révélations. Les experts ne sont pas allés assez loin. Et puis, ils s'inquiètent aussi sur le pouvoir de cette 5e République, ce pouvoir de ce petit cercle de gens qui peuvent mener une politique, quand bien même il y a des alertes militaires, civiles, et en fait, ils parlent d'une dérive d'une institution et d'un aveuglement persistant. La responsabilité de Mitterrand est prouvée, mais il regrette que ça ne soit pas la responsabilité des hauts dignitaires et des militaires ne soit pas prouvée. Et puis le dossier épargne aussi la responsabilité de l'opération turquoise.
Attends, c'est quoi l'opération turquoise ?
L'opération turquoise, c'est une opération militaire française au Rwanda en 1994 qui avait pour but de mettre fin aux massacres partout où cela était possible. Donc cette intervention militaire de 2500 hommes a laissé les génocidaires s'enfuir, leur a permis de se soustraire à la justice internationale, et donc ça montre encore un soutien aux extrémistes Hutus avant, pendant et après le conflit.
Et en plus de cette zone d'ombre concernant l'opération turquoise, il y a d'autres passages qui ont été mis sous le tapis ?
Alors il y a 8000 pages d'archives qui ont été étudiées, donc forcément il y a déjà beaucoup plus de choses à dire sur le génocide des Tutsis. Mais en plus, de nombreux documents ont disparu, ils ont été volontairement détruits, réduits en cendres. On parle pas par exemple du massacre de Bizezero, on a seulement des hypothèses sur l'avion abattu du président rwandais en 1994. On se questionne aussi sur le rôle de Paul Baril, le gendarme de l'Elysée, qui n'a pas été analysé. Celui-ci aurait signé un contrat d'armement de 3 millions de dollars au plus fort du génocide. Et puis enfin, le rapport ne fait pas la question des ventes d'armes et des transferts de fonds.
Et pour la suite, à quoi on peut s'attendre ?
Eh bien, il faut espérer que les historiens puissent avoir encore accès aux archives le plus longtemps possible pour qu'ils puissent écrire cette histoire et prouver le rôle de l'armée française et aussi d'éclairer ces zones d'ombre. Il faut aussi peut-être espérer que la justice internationale s'empare du dossier. En tout cas, pour nous, il est nécessaire de se mettre au point sur ce qui s'est passé au Rwanda pour ne jamais oublier ce qui fait partie de l'histoire française.
Merci beaucoup à tous les deux pour cette chronique. Il est quant à nous l'heure de nous quitter. Ce soir, vous retrouvez un nouvel épisode de 3615 Chill Out, suivi comme tous les mardis d'Electric Troubles. On se retrouve quant à nous dès demain. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. Bye.